La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.
Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle émission de La parole au travail sur Radio Grenouille. Il est souvent question dans le travail aujourd'hui d'organisations qui n'entendent plus le travail réel. Le travail que l'on fait, bien sûr, mais aussi ce travail que l'on ne fait pas, que l'on n'arrive plus à faire, ce travail impossible. Les organisations perdent le contact avec ce réel, qui par définition nous échappe aussi toujours. Et il semble trop souvent qu'il n'y ait plus moyen de le faire entendre. Alors, en ces périodes électorales, il me vient un slogan utilisé en 68. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Aujourd'hui, du point de vue du travail, on pourrait dire « exigeons le réel, discutons de l'impossible ». Aujourd'hui, nous allons entendre un luthier, un facteur de guitare, pour utiliser un terme ancien. Nous entendrons comment faire, mais aussi comment rencontrer une guitare, peut-être même pour la vie. Les histoires de guitare ne se terminent pas toujours mal, en général. Nous entendrons alors le plaisir des mains se baladant sur l'objet fabriqué et aimé. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
Normalement, si vous voulez, la véritable appellation, c'est facteur de guitare, comme facteur de piano. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, l'appellation facteur est complètement oubliée de tout le monde. Et si je dis à mes clients que je suis un facteur de guitare, ça imprime pas, quoi. Ça marche pas. Il faut le mot luthier est revenu pour la guitare, mais au départ, ça ne concerne en fait que les réparateurs et les fabricants d'instruments du quatuor, c'est-à-dire tout ce qui est violoncelle, donc c'est un mot ancien, voilà. Et donc celui qui répare, mais pas forcément celui qui fabrique. Alors facteur, ça veut dire celui qui fait, en fait. Aujourd'hui, on a encore le facteur de la poste, mais on n'a plus le facteur de guitare. L'activité, ça correspond surtout à recevoir des instruments qui sont ou abîmés, qui sont maltraités, qui sont anciens, qui sont usés, et donc de les remettre surtout en état, et de faire en sorte que quand l'instrument sorte de l'atelier, il soit performant, beau, joli, et qu'il donne surtout envie de jouer. Une scie à ruban, il y a une perceuse colonne, il y a des outils traditionnels que tu vas trouver dans n'importe quel atelier de lutherie ou d'ébénisterie, voilà. Non. Ah bon, après c'est vrai que il faut quand même avoir des outils précis, quoi. Tu vois, voilà.
Ouais, donc hop.
Là tu es sur l'établi des réparations. Okay. C'est-à-dire que tout est fait pour être facile d'accès, pratique, et tu as donc bien sûr toutes sortes d'outils. Ça va de tous les tournevis cruciformes droits de différentes tailles. Tu as aussi toutes sortes de pinces. Tu as aussi même des pinceaux et des brosses à dents qui servent à nettoyer les petits interstices, les petits endroits où on n'a pas accès. Tu as même donc toutes sortes de limes de différentes tailles. Tu as les colles, bien sûr, tu as les nettoyants pour les vernis, pour les restaurateurs de vernis. Tu as aussi, voilà, donc les petites huiles fines pour les micro-mécanismes. Voilà, tu as tous les cutters, toutes les lames, aussi les canifs pour tailler. Tu as ce dont je te parlais tout à l'heure, les cales de culbuteurs. Ok.
Celle-là, tu vois, elle fait 10 dixièmes de millimètre, okay. Tu vois, si ça passe, ou s'il y a un jour ou pas, okay. Okay. Tu as aussi, voilà, toutes les petites clés, les clés Allen pour les réglages de manches, tu vois, okay. Qui sont de différentes tailles. Tu as les vrilles, tu vois, tu as, voilà, après, bon, c'est un établi de réparation de lutherie, donc. Alors, un outil vraiment spécifique au métier, tu vas avoir cette lime. Ici, qui est une lime qui est montée sur une lime bien sûr en métal, pour le métal, qui est montée donc sur une poignée en bois que j'ai fabriquée, d'accord. Et cette lime sert à rectifier la bordure des frettes d'une guitare. Et ça, c'est une étape vraiment primordiale, quoi, très importante. Quand tu fais le refrettage d'une guitare. Ce sont les petites barres en métal qui séparent les cases sur le manche de la guitare. C'est ce qu'on appelle les frettes. En fait, c'est ce qui permet de fabriquer la note, hein, de l'instrument. Okay. Et donc, quand on appuie ses doigts sur une frette, sur une touche, donc cette frette permet de faire un arrêt à l'endroit où on en appuie, et donc de réduire la longueur de la corde, et du coup de fabriquer une note. Donc cette lime, on la place avec un certain angle, si tu veux, une fois que les frettes sont posées, et elle permet de limer, si tu veux, tout ce qui dépasse de la frette en bordure de manche, et de façon régulière sur l'ensemble du manche. Si tu touches, elles sont complètement aplaties, complètement douces, elles font pas mal aux doigts, parce que si on ne les limait pas parfaitement, quand on jouerait, on se couperait les doigts. Je vais te montrer un outil qui est assez fabuleux, qui est utilisé un petit peu en ébénisterie, mais de moins en moins, mais surtout en lutherie, qui s'appelle le ciel d'ébéniste. Ça s'appelle un ciel d'ébéniste, ouais. Tu vois, c'est assez fabuleux. Ça, c'est un outil que tu ne verras peut-être jamais plus. Hop, le ciel d'ébéniste, c'est donc, en fait, comme une table, avec un plafond, avec un ciel, donc. Et il sert au collage. Alors, ce qui est incroyable, c'est que, en fait, donc, il te faut des barres en bois. Bon, là, je les ai en fibre de verre, mais tu peux prendre aussi des morceaux de bois. Et donc, il va te permettre d'assembler des pièces, surtout sur des grandes surfaces. Ça veut dire que, par exemple, tu as une surface, une table de guitare, ça va te prendre bien 50 cm par 40. En gros, d'accord. Donc il te faut une grosse surface. Donc comment mettre des serre-joints quand tu as besoin de coller une pièce ici, par exemple, et une autre ici, en même temps? Ça n'existe pas. Donc tu utilises ce genre de choses. Et alors ce qui est de génial, c'est que ça crée en plus un collage de façon régulière avec une tension parfaite. Tu vois? Donc je l'ai fabriqué de sorte que je puisse le régler en plus. Donc j'ai récupéré des pieds d'une vieille table de Formica que j'ai trouvée chez Maüs. Thank you. Donc là, le bois que je vais utiliser, c'est du cèdre. Et parce que j'aime bien le cèdre. Dans les tables de guitare, tu as le cèdre et l'épicéa, les deux bois. Ce qui fait le son de la guitare, c'est la table. Et oui, donc alors en fait, le fond, les éclisses qui sont le bord et le fond qui est le dos de l'instrument, ok, ne sont là que comme coffre. Alors c'est vrai que les bois sont importants, si tu veux. Maintenant, ce n'est que la caisse, quoi. Le son vient de la table. La partie qui vibre le plus est la table. L'instrument à la base, je l'ai voulu le plus polyvalent possible. Ça veut dire une guitare sur laquelle on puisse aborder un petit peu toutes sortes de sonorités.
Et ça, c'est une guitare, d'accord, c'est une guitare que tu as construite de A à Z.
Oui, ouais, d'accord. Oui, tout à fait. Donc celle dont je suis amoureux depuis bien, très longtemps. Voilà, ça veut dire que je suis très content du résultat, ce qui est rare. Et parce que, bon, souvent, la première dans ce style-là n'est pas forcément toujours réussie. Et donc, à l'époque, quand je l'ai faite, ben, sûrement, il devait y avoir un ensemble de choses irrationnelles qui ont fait que tout a fonctionné plus que bien. Comme je te disais, tout a été fait à l'instinct, sur le moment, avec le minimum de connaissances à l'époque. Mais tellement loin par rapport à aujourd'hui que c'est pour ça que je suis étonné. Voilà, mais toute modestie, mais voilà, mais ça correspond à ce que je voulais, quoi, personnellement. Il n'y a pas bon, après, bien sûr, maintenant, si je devais la refaire, peut-être que j'améliorerais des trucs. Mais parce que j'ai acquis plus de connaissances depuis. Alors, c'est une guitare électrique. Alors, bien sûr, c'est que des couleurs naturelles du bois utilisé. Ça veut dire que tu as le dessus qui est en cèdre. Donc, le cèdre, c'est un bois qui est couleur miel, qui est donc avec une touche en palissandre, donc un marron plus foncé. D'accord ? En haut, tu as une tête c'est ce qu'on appelle une tête de guitare manouche. Donc avec une partie évidée dans laquelle viennent s'insérer les mécaniques, les cordes traversent la tête comme sur une guitare classique, en gros. Et donc, si tu veux, c'est un instrument que j'ai voulu donc très très léger en poids, hein, et surtout avec un maximum de tenue de notes, avec un maximum de sustain, comme on dit. Et en fait, c'est un exercice, hein, en fait, parce que il y a toutes sortes de choses dessus. Il y a des ouïes, il y a une rosace en trompe-l'œil. Alors, une rosace ovale, comme sur les guitares manouches, avec un cordier de guitare manouche, et le tout étant une guitare électrique. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'elle est entièrement creuse. Donc, ce qui fait qu'on peut quand même un petit peu jouer à la maison. Tu vois ? On a quand même un volume qu'on ne va pas avoir sur une guitare électrique normale. Et parce que si tu veux, sur des instruments comme ça, le terme américain c'est hollow body, Ok, ça, quand c'est bien fait, voilà, ça crée un son qui est à la fois, qui va être à la frontière de l'acoustique et de l'électrique. Donc c'est un instrument hybride. C'est pas pleinement comme une guitare électrique traditionnelle avec un corps plein. Donc le fait qu'il soit évidé, ça crée, si tu veux, une résonance, ça crée une sonorité différente. Si tu veux, j'ai deux micros en même temps. Donc ça me donne ce son un peu plus aigu du coup, puisque je vais rajouter le dernier micro qui est près des aigus. Donc près du chevalet, tu vois. Plusieurs fois, j'ai eu des musiciens qui me disent « Olivier, trouve-moi mon instrument. » C'est pas possible. Ah oui, tu vas te dire « Ouais, il fait ça, il joue ça, il aime ça. » Alors bien sûr, ça te donne des pistes. Mais faire que c'est l'instrument d'une vie, c'est pas gagné. Et il faut vraiment que ça vienne de lui. Il faut qu'il y ait un coup de cœur, quoi. Il faut qu'il y ait une rencontre, quoi. Ben c'est du temps passé. C'est quoi, ce que je dis pas que d'y avoir réussi chaque fois, mais ça fait plaisir quand tu as des gens qui viennent te voir, tu dis putain, Olive, c'est grâce à toi que j'ai cela. Après, il y a tout un contexte, tu sais, sur une rencontre, que ce soit avec un instrument ou avec quelqu'un, il y a le contexte du moment. Tu es en vacances, tu es plus libre dans ta tête que si tu es au bureau. Tu vois. Bon, maintenant, quand tu es au bureau, si tu fais une rencontre, ça peut être possible aussi. Mais si tous les éléments sont là pour que tu sois tranquille, bien, comme il faut, sans trop de stress, c'est plus facile. C'est pour ça que l'atelier est un endroit qui doit être aussi un endroit de paix, quoi. Après, moi, je sais que j'ai des clients qui viennent de très loin, qui voyagent beaucoup, qui sont des musiciens professionnels ou même que simplement des voyageurs, et ils viennent simplement me voir pour passer un moment, parce que c'est bien, parce qu'ils sont bien dans le monde de la guitare tel qu'ils le voient. Et ils me disent souvent, je viens chez toi simplement pour parce que le lieu, l'endroit est reposant. Tu es obligé de... Quoi, si tu veux faire ça, quoi, il me semble, hein, si tu veux faire ça comme il faut, quoi, c'est un peu... Voilà, il y a un ensemble, c'est cohérent. Ouais. C'est la guitare qui correspond au musicien. C'est ça, une bonne guitare. C'est tout. Bien sûr, ça c'est primordial, ça, il faut que l'instrument soit juste. Comme sur une bagnole, il faut des pneus, quoi. Tu vois. Voilà, mais après, c'est que le musicien trouve, bien sûr, son instrument, c'est ce qui va faire la différence, ouais. Ouais. Et moi, c'est vrai que quand j'ai construit ça, ce modèle-là, j'avais déjà une idée de son que de ce que je voulais. Je voulais pas un instrument que électrique. C'est pour ça que j'ai fait un hybride. Après, j'avais des références, bien sûr. Je connaissais les guitares. Donc, je savais que j'allais plus apprécier tel type de manche, de forme de manche et tel type de micro, par exemple. Ça, c'est sûr. Donc, je n'ai pas mis des micros au hasard. J'ai pas fait une forme de manche au hasard. Mais tout ça, après, ça ne fait pas non plus que ça va être son instrument premier. Hein, ah oui, tu vas te dire, ouais, il fait ça, il joue ça, il aime ça. Alors, bien sûr, ça te donne des pistes. Mais faire que c'est l'instrument d'une vie, c'est pas gagné. Et il faut vraiment que ça vienne de lui, il faut qu'il y ait un coup de cœur, quoi. Il faut qu'il y ait, une rencontre, quoi. Tout ça, moi, si tu veux, c'est des trucs que j'ai découvert en passant des heures. mais si tu veux, c'est devenu de façon autodidacte, tu vois. Moi, je peux te dire, avec mes années de pratique, souvent les instruments les plus réussis, c'est quand le luthier va à l'instinct. Il se dit, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tu vois, voilà. Il faut que l'instinct soit bon. Voilà, donc si tu veux, la première guitare que j'ai fabriquée, j'étais dans un contexte de vie, d'ensemble de choses qui ont fait que, ben, au jour d'aujourd'hui, 20 ans après, je suis toujours amoureux de cet instrument.
Mais alors, t'as appris quoi pendant tes 20 ans d'expérience? T'as appris te conforter dans l'instinct
Non, simplement à maîtriser l'utilisation de mes mains. Voilà, c'est tout. Que voilà, tout simplement, tu es confiant dans ce que tu fais. Et quand tu as de la matière à transformer, elle se transforme petit à petit de façon naturelle. Ben, l'instinct étant, si tu veux, la chose naturelle qu'on ne contrôle pas. Donc, du coup, c'est quelque chose de naturel, donc ça, comme ça ne se contrôle pas, quand tu es là aujourd'hui, je suis en train de fabriquer un instrument, je fais place à ce qui me semble être mon instinct. Donc c'est vrai que cette guitare est promise à quelqu'un, mais si je ne suis pas satisfait, il ne sera pas fâché si je ne lui donne pas. Quand je fabrique, non, je pense à rien. Je pense à l'instrument que je suis en train de faire. D'aller, comme je te disais, d'être le plus juste possible dans les gestes. C'est-à-dire ne pas me tricher dans les gestes. C'est-à-dire être moi, au mieux possible. Ben, parce que quand tu es contraint par des facteurs de rendement, par exemple, aller à faire bien, mais avec mes propres capacités. Après, tu en as des milliers qui feront peut-être mille fois mieux, mais moi, je veux faire qu'avec les miennes.
La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.